On est beaucoup à avoir perdu nos parents. C'est atroce, mais c'est pas grave. Mais voir la personne qui est censée s'occuper de toi, que t'aimes le plus au monde, souffrir à ce point, c'est ça qui est dur. Et je pense que sa souffrance, la souffrance de ma mère, m'a presque plus traumatisée que sa disparition. Donc, je ne laisserai plus jamais la souffrance pénétrer dans mon foyer. Je m'appelle Solveig, j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Ma fille est née à 9 ans, mon fils a 7 ans et ma dernière a 4 ans et demi. Voilà. Et j'habite en région parisienne.
Solveig a perdu sa mère d'une anorexie sévère lorsqu'elle avait 14 ans. Toutes les deux, nous avons donc ce drôle de point commun, d'avoir perdu nos mères à l'adolescence. D'avoir vécu plus longtemps sans elles qu'en leur présence. Avec tout ce qu'une telle perte si jeune peut comporter comme manque et comme regret. J'étais donc à la fois impatiente et inquiète à l'idée d'interviewer cette femme de 40 ans, mère de fille, elle aussi, au parcours si semblable au mien. Le jour de notre interview, elle arrive, et je me retrouve face à une femme forte, souriante, pleine de vitalité. Je perçois tout de suite son obsession du bonheur. Solveig est solaire. Ne surtout pas sombrer dans l'obscur, profiter de chaque instant et tenter de ne pas transmettre le chagrin vécu à ses filles. Face à Solveig et ses mots, je me suis un peu retrouvée.
Comme j'ai perdu ma maman de manière précoce, j'ai nourri autour d'elle plein de choses, j'ai écrit un livre sur elle, donc... Quand tu m'as proposé finalement de parler de ma mère, je me suis dit que c'était un formidable challenge. Alors à la fois que c'était hyper difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un de très émotif et j'estime que je n'ai aucun sang-froid. Donc je suis du genre un peu sensible. Donc à la fois j'appréhendais beaucoup et à la fois j'ai tellement envie d'en parler que je me dis mais obligé je réponds oui. Tout de suite ça m'a parlé énormément. Alors, ma maman s'appelait Lorraine. Elle est née à Paris. Et son père l'a abandonnée et ne l'a jamais reconnue. Donc, elle a habité Paris 16e avec sa maman. Elle était fille unique. Elle n'a jamais eu de frères et sœurs. Et ma grand-mère nous a toujours dit que ma maman avait eu une enfance très heureuse, que c'était une enfant très heureuse, très joyeuse, avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de charme, qui avait beaucoup d'amis autour d'elle ou de cousins autour d'elle. Donc finalement, elle était fille unique, mais elle n'était pas si seule que ça. Et quand elle était dans une pièce, on voyait qu'elle, quoi. T'as des personnes comme ça qui ont un aura, un charisme, un charme naturel. Et je pense que c'était pas mal le cas de ma mère. Donc, comme ma maman n'a jamais connu son papa, ce qui a été d'ailleurs pour elle une très grande souffrance, elle a par contre eu la chance d'avoir un oncle d'Amérique qui a été un petit peu un repère pour elle. D'ailleurs, pour ses 18 ans, elle a passé un an aux États-Unis chez son oncle Jerry, chez qui elle a été très heureuse, très gâtée, très chouchoutée. Elle a été très épanouie et elle l'aimait beaucoup, cet oncle. Je sais que ça l'a réconfortait pas mal par rapport à l'absence de figure paternelle, quoi. Alors, voyage pendant lequel elle a été très heureuse, très épanouie, mais pendant cette année-là, elle a pris pas mal de poids. Elle a pris même beaucoup de poids, peut-être 10 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Et ma maman était grande, hein, elle mesure 1m72, donc elle avait pris du poids, mais elle n'était pas grosse non plus du tout. C'est juste que elle est passée peut-être de mince à anormal. Et c'est parti de là, en fait. Elle est rentrée et c'est parti de ça, cette volonté de faire un régime. Et en fait, ce régime, il s'est jamais fini. Elle s'en est jamais remise. Elle s'en est jamais dépêtrée, quoi.
Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de tes parents ?
Ils se sont connus, mes parents, vers entre 20 et 24 ans. Et mon père est tout de suite tombé amoureux de ma mère. C'était un amour très fort. Et puis, mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Mon papa serait peut-être parti de la maison quand on avait peut-être 8 ans, moi 8 et ma grande sœur 10 ans, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'allait plus entre eux depuis très longtemps. Et personnellement, je n'ai pas de souvenir de mes parents ensemble. Donc, moi, je vivais avec ma maman et puis ma grand-mère qui était souvent là, j'en reparlerai. Mes deux sœurs, que j'aimais et que j'aime profondément, et mon papa, donc on voyait un week-end sur deux et un soir par semaine, ils nous emmenaient au restaurant, mes sœurs et moi. On peut dire que j'ai eu une enfance dorée, que j'ai été très, très épargnée, que j'ai vécu dans le coteau, que j'ai eu beaucoup de chance, on allait souvent en vacances, j'allais jamais au centre de loisirs, et... J'allais manger à la maison, avec ma maman, dans notre petite cuisine de Neuilly. Bon. Et puis le soir, on allait me chercher à 4h30. Le mercredi, je faisais mes activités.
Quel regard tu portais enfant sur cette maman ?
Un regard admiratif, parce qu'elle était belle. C'était une très belle femme, grande, brune, cheveux courts, un peu garçon manqué, mais toujours très, très élégante. Et elle portait des pantalons, elle portait des mocassins, elle portait des sweatshirts. Au-dessus de chemise. Elle remontait le col systématiquement. Elle avait un visage très fin. Elle avait une jolie peau, un peu mate. Et c'était une maman très gracile, très frêle, dont on a envie de prendre soin, qui est en effet un peu fragile. Donc en fait, on a envie de prendre soin d'elle, quoi. Et c'était une maman qui était certes malade, mais très aimante. Très aimante, très tendre. J'ai toujours trouvé qu'on se ressemblait un peu, ma mère et moi. Je suis assez sensible. Et elle aussi, elle était très sensible. Et je pense qu'on avait un peu la même sensibilité. Donc, une connexion qui était... on n'avait pas besoin de parler pour savoir qu'en fait, on se comprenait un peu. Et d'ailleurs, ma grand-mère, elle m'a souvent dit... Ouh là là, toi, t'es sensible comme ta mère, t'es fragile comme ta mère. Mais avec une inquiétude dans la voix, hein, elle veillait tellement sur moi, elle voulait me protéger de ça. Mais je vois tout à fait ce qu'elle veut dire et elle avait raison. En fait, ma mère était tout le temps là parce qu'elle était maman au foyer. Donc, elle était tout le temps à la maison. Et puis, elle ne sortait pas beaucoup. Mais j'ai un souvenir d'une maman présente tout en étant un peu absente. Parce que dans l'incapacité parfois de s'occuper vraiment de nous, dans l'incapacité d'avoir l'énergie de s'occuper d'enfants. Et puis, elle allait parfois à l'hôpital faire des séjours. Hein, où ma grand-mère nous disait, bon, bah là, votre maman, elle va aller à l'hôpital de Garches pendant X jours parce qu'elle manque de potassium. Ah, ok. Bon, voilà, c'était aussi concret parfois, hein, l'absence. Et c'était ma grand-mère qui était dans l'action pour gérer les repas, faire à manger, emmener les enfants à leurs activités, faire le taxi... Ma maman, j'ai l'impression qu'elle était parfois un peu en arrière-plan.
À quoi ressemblaient ces journées à ta mère dans la maison ?
C'est une bonne question, parce que du coup, j'ai des souvenirs un peu vagues et un peu parfois vides. Alors vide, ça veut dire d'une maman qui est là, qui va de pièce en pièce, pour faire quoi, je ne sais pas trop. Elle s'asseyait pas mal à son secrétaire, faire ses papiers. Je la vois pas mal dans sa chambre, sur son lit, ou bien à son placard, choisir ses habits, se regarder dans la glace. Je la vois choisir ses mocassins, je la vois choisir ses pantalons. Elle fumait énormément, je sais pas, un ou deux paquets de gauloises sans filtre par jour. Et donc, elle fumait beaucoup, mais en fait, je la trouvais assez élégante quand elle fumait. Et on vivait dans la fumée de ma mère. Bon. On lui faisait la morale comme une maman. Hein. C'était notre fille. Maman, il faut que tu manges. Maman, il faut que tu arrêtes de fumer. C'était ça. Je lui écrivais des lettres quand j'étais en vacances chez mon papa. J'ai retrouvé des lettres où je l'appelle mon bébé. Mon bébé, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as vu des copines. Là, ça faisait référence au fait qu'elle voyait très peu de gens. Elle voyait plus ses copines à cause de la dépression. Évidemment, hein, quand t'es dépressif, bah tu coupes tout ton cercle social et même familial. T'es en rupture totale. T'es dans ta bulle, en fait. T'es dans ta bulle. Et donc oui, je l'appelais mon bébé. Ça. Et d'ailleurs, mes sœurs aussi, hein, elles étaient très très maternantes avec ma mère. Très. On devait s'occuper d'elle, on devait veiller sur elle. Et puis on savait qu'elle était seule aussi. Donc quand on allait en vacances chez mon papa, eh bien, on savait que c'était dur pour elle. On le savait.
Est-ce que tu avais des moments privilégiés, toi, avec elle ?
À une époque, quand j'ai eu 10 ans, j'étais en CM1, j'ai eu des angoisses, des crises d'angoisse qui sont venues comme ça. C'était aussi un peu aussi beaucoup une angoisse de séparation avec ma mère. Et donc, du jour au lendemain, j'ai eu du mal à aller à l'école, j'ai eu du mal à me séparer d'elle. Et puis, elle m'a emmenée voir sa psychiatre pour parler de mes angoisses pendant un an à peu près. Et donc déjà, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me comprenait. Et c'était vrai, hein. Parce qu'en fait, personne ne peut comprendre vraiment ça. Parce que, en fait, tout à coup, t'es sans ta mère. Mais je sais pas, t'as quand même 9-10 ans. Et puis, tu t'effondres en larmes. Et je me souviens que mon père, il comprenait absolument pas, le pauvre. Absolument pas. Et il était un peu affolé. Et moi-même, en fait, j'arrivais pas à me l'expliquer. Enfin, si, tout ce que je pouvais dire, c'est « je veux voir ma mère ». Je veux voir maman. Et à partir du moment où elle était là, j'avais plus pleuré.
Pourquoi tu penses qu'elle était la seule à te comprendre ?
Bah parce qu'elle-même souffrait de dépression. Elle avait une extrême sensibilité. Donc, cette fragilité, bah, elle la connaissait déjà et puissance 100 000. Donc, un sentiment de tristesse parfois inexpliqué. Bon, bah elle le savait déjà, quoi. Elle avait déjà elle-même ses démons. Alors moi, ça n'a jamais été jusque-là. Mais en tout cas, voilà, mes petits débuts d'angoisse, mes petites angoisses à moindre échelle, bah, je savais que ça lui parlait malheureusement.
T'as des faits qui expliquent un peu sa dépression ?
C'est plein de choses. Déjà, le fait qu'elle n'ait jamais connu son père, ça a été très compliqué pour elle. Donc le manque d'une présence paternelle. Aussi, la séparation avec mon papa a été très compliquée pour elle. Et puis aussi, après ça, le fait aussi qu'elle n'ait jamais refait sa vie. Donc du coup, t'as ce manque de confiance en toi, ce vide qui ne se remplit jamais, qui ne se guérit jamais. Et puis aussi, le fait, autre circonstance aggravante selon moi, le fait qu'elle n'ait jamais travaillé. Et puis, le fait aussi qu'elle a eu beaucoup de mal à couper le cordon avec sa mère, mais ça, là, les responsabilités sont partagées. Et puis, c'est tellement compliqué dans l'anorexie mentale parce que, finalement, en bien des points, elle se sentait sans doute un peu étouffée par sa maman, mais elle réclamait la présence de sa mère. Et puis, sans sa mère, en fait, elle n'aurait pas pu forcément, peut-être, gérer tout le temps ses trois filles au quotidien. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux, quoi.
Quel regard tu portais sur sa maladie, toi, enfant ? Comment tu la percevais ?
Pour moi, sa maladie, c'était le diable. C'était quelque chose qu'on combattait. Et puis, quand j'avais l'impression qu'elle avait pris un peu de poids, je m'en réjouissais. Donc, sa maladie, c'était un combat pour nous. Dès qu'elle mangeait quelque chose, je m'en réjouissais. Dès que j'avais l'impression qu'elle était moins maigre que ce que je pensais, je m'en réjouissais. Une fois, elle est sortie de la piscine. Je l'ai vue en maillot de bain. J'étais jeune, hein, j'avais peut-être 9-10 ans. Et j'ai dit à ma mère, hyper innocemment, « Ah, mais ça va, maman, tu vois, t'es pas si maigre que ça, en fait. Enfin, rassure-toi, ça va, c'est pas si pire. » Après, elle est repartie. Ma grand-mère m'a dit, « Mais t'aurais jamais dû lui dire ça, etc. Ça va la mettre encore plus mal. » Avec mes yeux d'enfant, en fait, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'elle grossisse. Et dès qu'elle mangeait un peu quelque chose, j'étais contente. Une fois, elle m'a demandé, ma maman, d'aller lui acheter un millefeuille à la boulangerie. J'ai halluciné. J'étais trop contente de pouvoir lui rapporter ce millefeuille. Donc, quand t'es petite, en fait, tu te rends pas compte de toute la problématique mentale. Tu te rends, ça s'arrête surtout à des besoins primaires tels que manger. Bon, bah, ma mère, elle doit manger pour vivre, quoi.
Comment elle a évolué votre relation à ton adolescence ?
Pas facile. Bah donc moi je suis rentrée en période pré-ado et donc avec tout ce que ça peut signifier, rébellion, ingratitude, insolence et j'avais pas de filtre et j'avais pas plus de filtre avec ma mère. Après tu restes toi. Mais après coup je m'en veux quand même.
Tu t'en veux de quoi ?
D'avoir été pas sympa.
C'est quoi être pas sympa avec sa mère ?
Bah, c'est d'être pas gentille. Et je pense que toutes les mères de pré-ado et d'ado, elles vont savoir exactement ce que je veux dire. Pas sympa, mais pas sympa, quoi. Pas patiente, pas gentille, pas aimable. Et donc, un peu à la rejeter, comme tout ado hein, qui rejette ses parents. Mais ça, en fait, c'est hyper normal et finalement, c'est hyper constructif de faire ça. Faut absolument faire ça hein, pour... de devenir indépendant de tes parents. Et donc, en effet, je suis passée de la petite fille tendre, gentille, qui appelle sa mère mon bébé, à une pré-ado qui la rejetait un peu, parfois physiquement, parfois verbalement, et puis aussi qui parfois en a eu honte. Ma maman était très, très maigre, donc je pouvais avoir honte... de sa maigreur, du fait qu'elle paraissait vraiment malade. Et par exemple, j'ai une anecdote. On est sortis de chez nous, donc j'allais faire une course avec ma mère, et je me souviens, je marche légèrement devant elle. Et elle me dit savez pourquoi tu marches devant moi là ? Tu peux pas m'attendre ? Un petit peu agacée quand même. Et c'était hyper symptomatique en fait, de cette période-là. C'était un peu trop pour moi, un peu trop lourd. Plus on avance dans le temps, et donc plus là, je suis une ado, et plus elle maigrit et plus elle va mal. Donc plus j'ai des raisons atroces hein, d'avoir honte d'elle, parce que plus ça allait mal pour elle, et plus j'avais un peu ce sentiment de honte. Donc c'est horrible. Et d'ailleurs, j'ai pensé un temps l'avoir enfoncée. Parce que du coup, j'ai tellement analysé après, qu'est-ce qui a fait que ma mère, elle ne se soit jamais guérie de son anorexie, de sa dépression, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est autant enfoncée dans la tristesse. Et puis, je me suis dit que j'en avais rajouté une couche, en fait. Mais vraiment. Dans sa dépression, dans ce sentiment de désamour et dans cette image d'elle tellement, tellement médiocre, quoi. Et qu'en fait, il lui restait peut-être une raison de vivre, ses enfants. Et donc, je me suis dit que ça a dû être atroce pour elle. Et le soir où elle est décédée, moi, je n'étais pas là. Et j'ai demandé si je pouvais aller dormir chez ma meilleure amie. Et je me rappelle que sa réponse avait été hyper laconique. Comme si ça représentait un peu notre état des lieux, quoi. De lien mère-fille un peu abîmée par cette foutue adolescence. Et donc, elle m'a répondu « Oui, vas-y. » Mais d'un air un peu blasé, quoi. D'un air un peu « Oh, tu me saoules, quoi. Tu veux encore partir ?» Je pense qu'elle pouvait aussi le prendre un peu comme un désamour, quoi. À un moment donné, je me suis même dit que j'avais tué ma mère, un peu. Et je pense que je le pense toujours un peu, ça. Vraiment. « je pars dormir chez mon ami Emmanuel. Donc à ce moment-là, ma maman va très mal. Hein. Elle est descendue à un poids vraiment très 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 bas. Je pars peut-être vers 18h. C'était un dimanche soir. Je passe une très bonne soirée. Je dors chez Emmanuel. Le lendemain, nous sommes lundi, 9 octobre 1995. Son papa nous emmène à l'école. Et puis, comme tous les lundis midi, je rentre déjeuner chez moi. Je monte mes 3 étages. J'ouvre la porte. Je pose mon cartable. Je rentre dans ma chambre. Je ferme la porte et je me mets à mon secrétaire pour commencer mes devoirs. J'ai 14 ans. Ma grande sœur rentre dans ma chambre, je crois qu'elle toque pas, elle rentre dans ma chambre, elle me dit « Salut, ça va ?»« Oui, ça va. » Et elle me dit « T'es pas au courant ?» J'ai dit « Non, de quoi ?» Et là, elle me dit « Maman est morte. » Voilà comment j'ai appris que ma mère était morte. Donc là, évidemment, je m'effondre, etc. Je pleure, je demande des explications. Et ma grande sœur me dit « Maman n'allait pas bien hier soir. » Donc on a appelé les pompiers. Et elle est morte. Elle a eu un arrêt cardiaque. Et puis, quelques minutes après, ma grand-mère est rentrée à la maison avec ma sœur jumelle parce qu'elle était allée chez elle pour récupérer des affaires. Et puis après, moi, je ne sais pas trop quoi faire de moi-même, quoi. Je suis venue déjeuner, j'allais repartir à l'école. Et du coup, elle me dit, « Tu sais, si tu veux, ma chérie, si tu veux retourner à l'école cet après-midi, tu peux. » Puis j'ai dit, « Bah, ouais, je crois que je vais y aller. » Tu sais, en fait, je venais de me prendre une claque dans la gueule. Et puis, je pense que je me demandais, mais comment je vais m'en sortir? Et donc, du coup, je suis retournée à l'école. Parce que pour moi, je fonctionne exactement comme ça, en fait. Exactement comme ça. Pour moi, c'était un moyen de survivre. De continuer.
Comment on grandit? Comment on devient une femme après, quand on a vécu ça? Quand on a perdu sa maman si jeune?
Moi, j'ai envie de dire que je suis devenue, par la force des choses, une femme très optimiste. Très dans la vie, en fait. On devient quelqu'un qui refuse la tristesse, qui refuse la souffrance, parce qu'on a l'impression qu'on a tellement été un peu baigné là-dedans qu'on en a été un peu écœuré, dégoûté, je sais pas. Moi, j'ai une obsession, en fait, hein, pour le rire, pour la vie, pour le... J'arrête pas de me dire, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu ne peux pas être triste, c'est pas possible.
Pourquoi?
Parce que j'ai trop donné dans la tristesse, j'en ai marre. J'ai trop vu de tristesse. Et une fois, ma grand-mère, je chantais dans la voiture, et une fois, elle m'a dit, « Ah là, Solveig, toi, t'es vraiment faite pour le bonheur. » Elle m'a dit ça, ma grand-mère, ça m'a jamais quittée. Ça m'a jamais quittée parce que elle a tellement raison. En fait, j'ai tellement envie d'être heureuse.
Est-ce que c'est important pour toi de donner une image à tes filles de maman joyeuse, heureuse, gaie, contrairement à l'image que tu as eue de ta mère?
Oui, c'est important, même si j'ai l'impression que parfois, je peux pas lutter contre certaines choses qui sont innées, à savoir ma sensibilité et le côté parfois un peu très cérébral, quoi, que ma mère, elle avait, évidemment. Donc, je fais tout pour être heureuse, tout le temps. Et à la fois, moi, je ne peux pas m'empêcher, de toute façon, d'avoir mes défauts, à savoir manque de sang-froid, trop grande émotivité, le fait de prendre trop de choses à cœur. Donc, il m'arrive de craquer devant mes filles. Et quand je craque devant elles, je m'en mords les doigts.
Est-ce que c'était important pour toi de devenir mère de fille?
Alors non, bizarrement non. Parce que comme j'ai toujours eu un côté un peu garçon manqué comme ma maman, je voulais avoir des mecs. Et je voulais même avoir une tribu de mecs. Et aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir des filles. Je me sens tellement chanceuse d'avoir ressuscité le lien mère-fille que j'ai perdu, quoi. avoir la chance de pouvoir avoir ça, c'est génial parce que ça m'a tellement manqué les conversations avec ma mère que j'aurais dû avoir à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans quand je me suis mariée, puis après à 31 ans quand j'ai eu mes enfants. Ça m'a tellement, tellement manqué. Et j'arrête pas de me dire, ah là là, je vais pouvoir avoir tellement de moments de partage avec mes filles, des moments de conversation et des moments aussi de tendresse, des moments de confidence. Et du coup, ça me console un peu, pas complètement, hein, mais ça me console un petit peu quand même de tous ces rendez-vous manqués que j'ai pu avoir, tous les déjeuners que j'ai pas fait avec elle, tous les coups de fil que je lui ai pas donné, tout ça, quoi. Tous les débriefs qu'on n'a pas fait, quoi. Ma fille aînée, elle me ressemble vraiment beaucoup. Et donc, en fait, j'ai très peur de transmettre une fragilité que ma mère avait à mes filles. Mais donc ça, j'ai très peur de ça. Mais alors, figure-toi qu'une amie psychologue m'avait dit un truc qui m'avait vachement rassurée à ce sujet. Parce que je lui avais dit ça et j'étais pas très bien, tu vois. Et elle me disait, mais enfin, Solveig, t'es pas toute seule à élever tes enfants. Il y a le papa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes enfants, ils vont prendre OK de toi, mais ils vont prendre aussi du papa. Donc ne t'inquiète pas. Et donc tout ça, ça rééquilibre les choses, quoi. Il n'y a pas que toi dans la maison, il n'y a pas que toi qui es le modèle.
Tu dirais qu'elle t'a transmis quoi de plus fort, dans le positif comme dans le négatif, ta mère?
De plus fort, c'est l'amour. C'est pas anecdotique parce que il n'y a pas toujours des parents qui sont aimants. Et puis, le côté trop sensible, parfois. Alors, on parle beaucoup d'hypersensibilité à notre époque, hein, et c'est un terme hyper controversé, mais c'est vraiment le fait d'être submergé par ses émotions et le fait parfois de peut-être pas faire la part des choses ou de se laisser complètement submerger par ses émotions.
C'est là-dessus que tu travailles avec tes filles, pour le coup.
Oui. Et en même temps, je trouve qu'avec les années, quand même, je me suis un peu améliorée. Faudrait demander à mon mari si j'ai raison ou pas.
Est-ce que tes filles, elles connaissent l'histoire de ta maman?
Je me suis pas trop étalée. Il y a juste un jour où j'ai dû m'étaler parce que j'ai été forcée d'en dire un petit peu plus. C'est un jour, ma fille, je sais pas ce qu'elle prend, elle me dit « Oh bah là, regarde, je sais pas, elle me montre son bidou, elle me dit « Oh regarde, j'ai grossi. » Alors là, moi, ça me rend hystérique, t'imagines bien. Enfin, ça c'est le point noir, évidemment. Et là, je commence à perdre totalement mes moyens. Et je lui dis hyper sérieusement, ne dis jamais ça. Je t'interdis de faire un régime un jour. Et là, je pleure devant elle. Là, je comprends pas trop. Et là, je lui explique que, en fait, la maladie de ma mère, bah, ça a un lien avec tout ça. Et que je veux qu'elle, elle nourrisse une confiance en elle de tous les instants et qu'elle est parfaite. Et que voilà.
Si tu pouvais t'adresser à ta maman aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Je me suis toujours dit, bah, tiens, vous direz à ma mère que le bonheur, c'était possible, en fait. Moi-même, quand elle est morte, je me suis dit que je ne serais plus jamais heureuse. Plus jamais sans ma mère. Évidemment, comment être heureuse sans sa mère, quoi? Et bah, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse et donc j'ai envie de lui dire que je cultive le bonheur pour elle tous les jours.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes filles?
Je leur dirais d'avoir toujours confiance en elles. Parce que la confiance en soi, c'est une arme redoutable pour tout. Pour ta vie en société, pour ta vie en couple, pour ta vie professionnelle, pour ton bonheur. Et l'estime de soi, ça a détruit ma mère, ça l'a emportée. Et plus jamais, je ne veux que ça arrive dans ma vie et encore moins au sein de mon foyer.